fils de Philippe, fils de Brigitte et sœur de Esther et de Léna. Maintenant, je suis frère d'eux.
Nous ne sommes pas jeunes de la même façon. Physiquement, intellectuellement, cérébralement. Intellectuellement, ça vous jugez selon ce que vous pensez de ce que nous écrivons l'un et l'autre.
Un père qui nous aime certainement, j'espère bien, mais c'est pas gagné d'avance.
Moi, j'ai la jeunesse civile, chronologique et biologique, mais je me sens beaucoup plus géologique que lui. Il est un esprit vif. Moi, je suis un champ de labour.
Une mère, c'est un lien qui est indélébile, qui est quelque chose de très très fort.
Cette semaine, dans l'Heure Bleue, une série spéciale Transmission, suite de notre série consacrée à ce qui se passe entre enfants et parents, parents et enfants. Vous avez peut-être entendu hier Jacques et Lou Doyon, aujourd'hui ce sera Louis et Philippe Garrel, fils acteur et réalisateur et père cinéaste. On dit tel père, tel fils dans le langage courant en français. On pourrait dire aussi peut-être tel fils, tel père avec Louis et Philippe Garrel. Mais comme chaque soir nous commençons en musique avec Woodkid en duo avec Louis Garrel pour la reprise de l'aérogramme de Los Angeles d'Yves Simon.
De ces collines où du matin à Los Angeles, j'ai bien reçu l'aérogramme arrivé par express. Un océan et quelques rues de Paris 18e, tout est si loin. Je ne sais plus si c'est vrai que je t'aime. Sunset Boulevard, des Indiens nous rendent des photos. Lorraine Bacall et Hollywood avaient 30 ans de trop. Sur ces collines, près de la mer, j'ai vu Henri Miller. Je ne sais plus si j'aime encore la vallée de la mort.
Vous vivez-vous, Louis Garrel, comme un fils d'eux ?
Petit-fils de, fils de Philippe, fils de Brigitte et sœur de Esther maintenant. Et de Léna, mes deux sœurs.
Frère alors ?
Maintenant je suis frère, oui, frère d'eux.
Et qu'est-ce qui est le plus important dans cette constellation familiale ?
Que tout le monde soit bien en bonne santé. Ce serait ça le plus important. Tout le temps parce que je me soucie de la santé des uns et des autres tout le temps. Comme je suis très anxieux, j'ai toujours peur qu'il y ait une catastrophe qui arrive.
Estimez-vous que votre talent de réalisateur et d'acteur a été transmis en héritage ?
Non. Pas en héritage, mais c'est parce que c'est des présences, comme tout le monde parle de ça tout le temps. On parlait de ça tout le temps à la maison, que ce soit chez mon père ou chez ma mère. C'est beaucoup comment est-ce qu'on réunit les sous, comment est-ce qu'on réunit telle personne qui n'est pas disponible. Alors il faut trouver quelqu'un d'autre qui n'est pas disponible. Donc c'est un apprentissage de technique. On pourrait dire. Mais il n'y a rien en héritage, ça n'existe pas.
Quand a commencé le désir de faire cinéma pour vous, Louis Garrel ?
Cinéma, ça devait être vers 15-16 ans, parce qu'avant c'était le théâtre. Puisque j'allais voir les répétitions de ma mère et des représentations de mon grand-père au théâtre. Donc c'est le lieu du théâtre qui m'a d'abord charmé. Et quand j'allais à la Comédie Française étant petit... Le lundi soir, comme c'était le cafard, le lundi soir, j'allais à la Comédie Française à 20h30, parce que ça jouait le lundi à la Comédie Française.
Avec qui vous y alliez ?
Tout seul. Il y avait des places à 15 francs. Donc là, à 20h, il fallait se pointer devant la caisse et on achetait une place. Et j'allais voir beaucoup des mises en scène de Jean-Louis Benoît. Je me rappelle, c'était lui qui était très bien. Et c'était des pièces de Molière. Et c'était d'abord le théâtre. Et après, le cinéma, non, ça devait être parce que j'ai joué quand j'étais petit dans les films de Philippe.
Philippe, c'est votre père.
Oui, qui est là.
Vous l'avez toujours appelé Philippe.
Oui, bizarrement. Mais ma mère aussi, je l'appelle Brigitte. Bah, si, je l'appelle papa, mais je le désigne comme ça au sein de la famille, mais pas à l'extérieur.
Ah, mais quand vous êtes tous les deux, vous appelez comment ? Vous l'appelez comment ?
Je sais pas, on s'appelle pas.
Ça,
on se fait pas trop de bises.
C'est Philippe.
Tout ça, on est un peu distant toujours, même si on s'adore. Mais c'est peut-être justement parce qu'on s'adore qu'on. On fait pas de démonstration affective trop.
Ça veut dire quoi s'adorer entre un père et un fils, Philippe ?
Bah c'est les gens qui vous constituent quoi. Comme il parlait de ses deux sœurs, c'est mes trois enfants, ils me constituent. Comme il dit, quand ils vont bien, ben je vais bien.
Vous c'est pareil, vous avez le sens de la famille.
C'est-à-dire il y a eu une métamorphose parce qu'avant j'étais très en symbiose avec mon père quand j'étais jeune et. Sur aussi la question du théâtre et du cinéma, et puis après à la...
Vous aussi, vous avez souhaité commencer par le théâtre, c'était plutôt le théâtre qui vous passionnait.
Non, moi j'ai pris mes maîtres dans la nouvelle vague. J'ai pris, je voyais quand j'étais encore au lycée les premiers films de Godard et tout ça, c'est ça qui me sidérait le plus. Et j'ai pas de, je sais pas faire de théâtre. J'ai jamais essayé de faire une mise en scène théâtre. Et
vous alliez voir votre père
ouais,
jouer au théâtre.
Exactement.
Depuis tout petit.
Ouais, parce que je me souviens, il jouait le cercle de Crèche-Caucasienne de Bertolt Brecht ou des choses comme ça. Et si on regarde la métamorphose, elle a son rêve éveillé. Quand je voyais enfant, par exemple, Maurice qui jouait le cercle de Crèche-Caucasienne. Et puis quand je voyais, il y a, quelques années, Louis jouait les fausses confidences à l'Odéon, alors que mon père était plus de ce monde. Il y a un endroit où qui est comme un rêve éveillé pour moi, qui est théâtre, mais auquel sur lequel j'ai pas travaillé, le théâtre. Et après, je suis venu plus au cinéma parce que ça me paraissait très difficile et en même temps, je trouvais ça justement intéressant parce que c'était très difficile. Le souvenir le plus engageant, c'est Alphaville de Godard, où on était 6 dans la salle. Parce qu'il faut bien voir que maintenant, Godard, il est plus que consacré. Il est regardé comme le génie qu'il mérite, qu'il est. Mais à l'époque, ça faisait les films de Godard, la plupart faisaient scandale. Il y en a très peu qui ont marché, et ceux qui ont marché, ont marché raisonnablement. Et par contre, il y en avait énormément qui étaient très attaqués. Et Alphaville... on était 6 personnes dans la salle du Vendôme, c'était une salle qui n'existe plus sur l'Opéra. Et il y a 2 personnes qui sont levées, on a fini à 4 comme ça, et je trouvais ça extraordinaire, cette histoire de cet homme qui vient de l'extérieur, dans une société surorganisée, totalitaire, et qui vient sauver une femme en l'enlevant. Aussi vis-à-vis de la femme, maintenant, Godard est plus pris comme référence par rapport dans le féminisme et tout ça, mais à l'époque quand même, c'est, si j'avais choisi Godard, c'est parce que les femmes qui filmaient, ils les filmaient d'égal à égal quand même, et je voyais ça dans ses films, et ça, je trouvais ça intelligent d'avoir compris que de l'autre côté du mur de la communication entre les hommes et les femmes, il y avait la certitude qu'ils étaient forcément aussi intelligentes que nous, parce que sinon on voit pas comment elles auraient pu respirer, et donc ça me paraissait logique, ça. Voilà. Et puis j'avais l'impression que je pouvais, c'était plus comme disait Louis, j'avais l'impression que la difficulté qui était de trouver des moyens, puisque c'était un art industriel, le cinéma, ben finalement c'était ça qui faisait le... Je pensais que je saurais faire, je sais pas où je... Pourquoi je pensais que je saurais faire, mais je pensais que c'est ça qui fait la sélection, alors que si j'avais pris un autre art, parce que j'aime autant les autres arts, j'aimais la peinture par exemple, mais pour percer en peinture dans la... et vivre de son art dans la peinture moderne, ça me paraissait très compliqué, et jouer sur la chance beaucoup plus que sur la volonté, et au contraire, le fait qu'il faille trouver des moyens comme art industriel, le cinéma, c'est ça qui me rassurait.
Ta voix, tes yeux, tes mains, tes lèvres, nos silences, nos paroles, la lumière qui s'en va, la lumière qui revient, un seul sourire pour nous deux. Par besoin de savoir, j'ai vu la nuit crier le jour, sans que nous changeons d'apparence. Ô bien-aimé de tous et bien-aimé d'un seul, en silence ta bouche a promis d'être heureuse. De loin en loin, dit la haine, de proche en proche, dit l'amour.
Tout à l'heure, Louis a dit que rien ne se transmettait par héritage. Vous êtes une famille particulièrement... chanceuse, parce que, comme Louis l'a rappelé, sa mère est une artiste, son père, en l'occurrence vous, Philippe, vous êtes un artiste, mais votre père aussi était un artiste. Avez-vous eu l'impression, quand votre père était vivant, qu'il vous avait transmis des choses
non,
par rapport à votre...
C'est mon professeur de français qui croyait ça. On était deux cracks en poésie, parce qu'à l'époque, on récitait, je sais pas si ça se fait encore de réciter une poésie quand même en classe comme ça devant les autres. Et il disait quand même Philippe Ier, parce qu'il a ça dans le sang. Mais ça, je pensais, on va faire croire.
Que, dans le sang, ouais, c'est une belle expression,
mais
dans
ça,
le sang.
C'est ce qu'on fait croire au public qu'on a ça dans le sang. Mais je vois pas comment ça pourrait être dans le sang. Que ce soit chromosomique, je sais pas, le talent.
C'est l'éducation aussi.
Oui, c'est l'éducation, c'est comme Louis disait, c'est parce que comme il s'agit de ça tout le temps depuis le premier âge ou presque, le monde se définit avec ça, on a l'impression qu'on voit de quoi il s'agit et qu'on saurait le faire éventuellement si on... Mais c'est ce qu'on fait croire au public, c'est comme ce qu'on fait croire au public aussi, c'est qu'on a du talent. Le talent, c'était une pièce de monnaie, hein. C'était ce qu'on vous donnait, ça c'est mon père m'a dit, t'as du talent si on te donne de l'argent pour ton art, quoi. C'était un talent, mais ça on fait croire qu'on a du talent. Par le travail, je pense.
Donc, de père en fils, c'est une expression qui ne vous convient pas, ni au fils, ni au père.
Non, c'est pas par hasard non plus, mais c'est comme la boulangerie familiale, quoi. On pourrait dire les boulangers, il a ça dans le sang. Non.
L'amour de l'art, peut-être.
Oui,
la considération.
Oui, mais dans la boulangerie aussi, si on a trois enfants et qu'on est boulanger, il faut que les trois aillent bien pour que la boulangerie aille bien.
Non, il y a une autre chose que je me suis dit une fois, c'est que non, comme, y a pas de, comme on n'est pas une famille religieuse, peut-être que le théâtre a remplacé l'église. Je crois que c'est très différent de toi. Mais moi, le cinéma, il y a quelque chose qui peut m'angoisser, tandis que le théâtre ne m'angoisse pas. Mais genre, j'ai réfléchi pourquoi. D'une part, est-ce que qui en a parlé de ça, que le cinéma peut être un art de propagande? Le théâtre, il peut pas vraiment être un art de propagande, bizarrement. Je sais pas pourquoi, parce que c'est pas une, on n'est pas dans la tête d'un homme au théâtre. On est avec des milliers de regards, mais on n'est pas dans la tête d'un homme. Tandis que le cinéma, on est quand même dans la tête d'un homme, et il peut arriver à par hypnose nous faire croire des choses. Tandis que le théâtre, il y a quelque chose de beaucoup moins, pour moi, plus rassurant. C'est-à-dire que je peux pas vraiment être angoissé au théâtre. Alors qu'au cinéma, parfois, je peux étouffer dans la vision de quelqu'un qui est trop rétréci, ou j'en sais rien, ou...
En même temps, avec l'exercice, je trouve que le théâtre, par le fait que les gens sont là et que c'est reçu directement et qu'il y a quelque chose de très qui fait que ça reste dans la vie, quoi, que ça fait une vie. Alors que le cinéma, son inconvénient, c'est un peu abstrait, parce que si on vous dit il y a quelqu'un qui a vu ton film, je sais pas, en Argentine et tout ça. Oui, mais c'est abstrait complètement. Si on dit il y avait beaucoup de monde, ou les gens, il y a des gens qui sont venus, voulaient absolument voir ce film. Il pleurait de voir ça, je sais pas, un film que j'avais pas montré à Tokyo. C'est complètement abstrait, quoi. C'est-à-dire, on est un peu toujours à la tâche, quoi, et il n'y a pas le moment dans le théâtre. Et finalement, après coup, quand j'ai compris ça, même quand ça marchait, c'était pas quelque chose qui était ressenti, réellement. C'était juste une espèce de... C'était des contes, presque. Et puis, aller tous les soirs jouer, c'est à la fois déplacer une montagne tous les soirs, mais ça fait une vie. Alors que le cinéma, une espèce de je sais pas, c'est un art un peu froid, finalement, par rapport à ce que j'imaginais.
Et vous, Philippe, quand vous étiez petit et que vous alliez voir votre propre père sur le plateau du théâtre et que vous étiez dans le noir, comme ouais. tous les autres spectateurs, ouais. vous vous êtes dit un jour... Moi aussi, je serais dans la lumière, ou moi, je préférerais être dans les coulisses, ou...
Non, c'est-à-dire ça... Comme j'étais quand même enfant dans une salle où il n'y avait que des adultes, c'est ce phénomène-là qui était, pour moi... je pensais que tous les autres enfants de mon âge dormaient, quoi. Et que donc, j'étais éveillé par exception du fait qu'il y avait mon papa sur scène. C'était ça qui faisait que c'était un espèce de moment onirique, quoi. Mais finalement, quand même, ce que j'ai épousé plus que le cinéma encore par rapport au théâtre, c'est l'art en général. J'ai besoin de tous les arts, j'ai besoin de voir des galeries de tableaux. Si je regarde ce que j'ai vu récemment de très très fort, Adieu au langage de Jean-Luc Godard à la Cinémathèque, au Ciné-Club de Jean Douchet, dans la grande salle et tout, en 3D, c'était un chef-d'œuvre tout d'un coup. C'était la troisième fois que je le vois, et tout d'un coup je me suis rendu compte, et tous les gens qui étaient là se sont rendu compte que c'était un chef-d'œuvre, et Jean Douchet aussi s'est levé en disant, je crois que c'est son plus beau film. Donc tout d'un coup j'ai compris que Godard n'était pas du tout en train de faire une recherche ou quoi, il était juste dans une troisième époque, comme ça, de cinéma abstrait et très très fort. Et puis... les Botticelli à Florence, que j'avais jamais vu. Là, je suis arrivé à me glisser dans la foule et tout pour voir ça aussi. Je suis tombé complètement. Et pour moi, c'est pareil, de regarder comment Botticelli peignait ses visages, etc. Ce qui est d'une manière assez simple comme ça, mais les visages les plus beaux qui soient dans la peinture. Ou comment Godard fait un film en 3D qui est pas du tout comme les autres films en 3D, qui est un espèce d'objet d'art extraordinaire. Dans le ressenti, c'est de la même nature. Quoi. Et alors, donc, c'est vraiment l'art en général dont j'ai besoin pour vivre, comme il dit, parce qu'on est très athée dans la famille, et il faut qu'il y ait un endroit forcément où il y a le sacré et où se réfugie le quelque chose qui est le plus brillant de la vie, quoi, ou le plus. Et c'est l'art en général, oui.
Mais cette soif de beauté, comment vos parents vous la proposaient, vous proposaient-ils de l'étancher, cette soif-là, Louis Garenne?
Je suis un enfant moderne, j'ai déjà eu des parents séparés. Du coup, le mercredi, on allait au cinéma, et donc de temps en temps, on a commencé à aller voir les Contrebandiers de Moonfleet. Puis après, j'ai vu Hélas pour moi, ça c'est un souvenir d'ennui quand j'avais 12 ans, parce que là, je n'avais pas encore compris, j'étais trop petit, je devais être vierge. Donc Hélas pour moi, ça me paraissait comme un truc que je ne comprenais pas. Donc puis il y avait des échanges de films, on allait au cinéma, quoi, le mercredi, c'est comme ça que les premières fois. Mais c'est beaucoup quand même c'est beaucoup par l'endroit du théâtre, même les coulisses de théâtre, que j'ai compris que ça me plaisait beaucoup plus qu'au cinéma. Et après, c'est plutôt une professeure de français, moi, qui m'a, parce que je pense que comme ça a trait aussi à un moment donné à l'intimité, quand tout d'un coup on découvre, ça peut pas être forcément celle que tes parents te donnent. Il me semble
qu'il faut la construire par soi-même.
Je pense qu'il faut à un moment donné les kidnapper soi-même. Et donc c'est une professeure de français qui s'appelle Madame Durand qui nous a montré en troisième, donc à 14 ans, Fahrenheit 451. Et c'est là où j'ai commencé à aimer bien sensuellement un film. Tandis qu'avant, c'était où? Par amusement, tout ça, où j'ai commencé à voir qu'il y avait un metteur en scène qui me parlait vraiment, qui était Truffaut. Et donc après, j'ai commencé à regarder tous les films de Truffaut. Et
tout seul, sans le dire à votre père, ni à votre mère?
Si, peut-être je l'aurais dit. Enfin, je me cachais pas non plus, mais en tout cas, c'est... Puis après, j'ai regardé toute la première époque de Godard, toute la première époque après de... J'ai que découvert Skolimowski, puis j'ai découvert toute cette... Au début, bizarrement, ça c'était une phrase d'ailleurs que Jean-Luc Godard disait, que je trouvais très intelligente, il disait que la télévision, ça se regardait en famille, que le cinéma, on y allait vraiment tout seul. On allait tout seul au cinéma, et que c'est pour ça qu'il aimait pas la télévision, que c'était un objet qui était trop familial. Je comprenais ce qu'il voulait dire, que ça me paraissait bien.
Comme on n'avait pas la télévision non plus.
Oui, il n'y avait pas la télévision à la maison non plus, vous avez pas raison. Non, mais j'allais voir ses films aussi à Philippe. C'est d'ailleurs aussi.
Avant qu'il vous engage.
Oui, c'est peut-être ça d'ailleurs qui m'a poussé à devenir acteur, parce qu'un jour j'avais vu La naissance de l'amour, qui est un film que j'aime beaucoup, je devais avoir 11-12 ans. Il devait y avoir des inspirations de mon attitude vis-à-vis du personnage de l'enfant. J'ai dit, mais attends, j'aurais pu le jouer quand même.
C'est vous qui avez fait des offres de service à votre père, c'est pas votre père qui vous a engagé.
Oui, exactement.
Pour votre belle gueule.
Exactement, c'est moi qui ai donné l'inspiration.
Oui, mais en même temps, j'ai un principe d'éducation qui est que j'ai toujours laissé Louis, et puis après Esther maintenant qui tourne déjà, et Léna qui est en train d'étudier dans les conservatoires d'arrondissement. J'ai toujours fait que quelqu'un d'autre les découvre, et une fois qu'ils avaient fait leur preuve avec quelqu'un d'autre, je pouvais les engager, parce que sinon je pensais que j'allais les étouffer. C'est-à-dire justement, si vous avez commencé là-dessus, fils d'eux, c'était une manière, quelque part, de dire non, je préférais paraître opportuniste et engager mon fils quand il avait déjà du succès, que après Bertolucci, que de devancer et de l'étouffer et faire que... Quand Bertolucci l'a engagé, il ne savait pas que c'était mon fils. Donc c'était...
Bah, il s'appelait Garel, quand même.
Si, attends, tu rigoles ou quoi?
Ah oui?
Garel, en italien, c'est Garel.
Voilà, et puis... alors donc, il avait fait le Bertolucci, là, qui avait... le film Dreamers, et puis Esther, elle avait fait Call Me By Your Name, avant que le mien soit fait et tout ça, et ça c'est volontaire. C'est
non, surtout qu'il y avait un copain de Philippe qui voulait m'engager quand j'avais 12 ans, dans un truc qui s'appelait Les Compagnons de l'Aventure, qui en plus était une série que j'aimais bien, qui était une série sur TF1, qui s'appelle Bernard Dubois, et vous aviez refusé. J'ai pas eu le droit d'aller faire la...
Ouais. Pourquoi ?
Bon, on faisait attention quand même, parce que c'est bien, quand les enfants sont très jeunes, ils peuvent pas se rendre compte qu'il n'y a pas de différence entre le jeu de la vie et le jeu avec une caméra
c'était
dans
bien,
la pièce.
C'était bien, mais la série télévisée de TF1, c'était moins bien que de faire du cinéma.
Non, non, c'était pas à cause du niveau, parce que Bernard, c'est quelqu'un de très bien et qui fait des choses humainement très, très belles, ce qui restait un de mes amis, Bernard Dubois. Non, non, c'était juste pour que tout d'un coup, ils n'aient pas une crise d'ego comme ça. Adolescent, c'est dangereux de faire tourner les enfants. Très jeunes, avant 5 ans. À 5 ans, ils peuvent pas avoir la différence. Ça tourne, ça tourne pas. C'est pareil. Mais après, il y a...
Ouais, parce que moi, j'ai pas de souvenirs, parce qu'il dit qu'il m'a pas... Mais j'ai été engagé à 6 ans dans un film. Ouais. J'ai plus de souvenirs. Les souvenirs
un film
sont...
de votre père.
Oui. Avec,
il a oublié.
Si, avec, il y avait le grand-père, il y avait Maurice qui jouait dedans.
Oui, mais il y avait toute la famille là. Mère. Et puis, il était très petit, donc c'était pas dangereux. Et après...
Il y avait même l'ex-femme, Anémone. Et il y avait moi.
Est-ce qu'il y avait la future femme dans le film ?
Il y avait ma mère. Non, non, il n'y a pas la future femme encore. Si, peut-être, j'en sais rien. Non, mais non. En tout cas, quand je me souviens de ça, je ne me souviens plus si les scènes ont été tournées ou pas tournées. Il y a plein de scènes que
oui, c'est parce que c'est mélangé quand on a 5-6 ans, je pense. Et donc là, ce n'est pas dangereux. Mais par contre, adolescent, ça peut être dangereux, c'est vrai. Tous ces lieux communs ont leur raison d'être, hein, quand même. Et un peu pareil que pour ne pas m'annexer, je ne les ai pas fait débuter avec moi. Enfin, sauf quand ils étaient très petits enfants. Pareil, je pense qu'un adolescent, c'est dangereux au moment où il a sa formation sexuelle et tout ça. Le fait de le faire tourner, ça peut être dangereux.
Donc, vous avez engagé Louis comme acteur. Que veut dire pour vous, Philippe Garel, de regarder un acteur qui est aussi votre propre fils? Et j'ajoute que dans certains films, votre propre fils à qui vous allez demander de jouer votre propre rôle.
Et des fois mon père aussi.
Et quelquefois, oui, on va y venir.
Des fois, je lui ai demandé de jouer son grand-père. Ça, c'était bien vu psychanalytiquement. Quand je lui ai demandé de jouer moi à 20 ans, ça allait. Dans mon film Les Amants Réguliers, là. Quand
ça, c'était mai 68.
Voilà. Ouais. Et donc ça, c'était intéressant, le fait qu'il ait juste 20 ans.
Et après, quand j'ai joué un copain à toi, c'était pas bien.
Non, par exemple.
Donc en fait, il faut que vous soyez...
on fait des expériences.
Votre père ou votre grand-père, ouais, sans ça, c'est pas bien.
C'est des expériences psychanalytiques, pas mal. Ouais. Et après, je pouvais pas jouer la représentation d'un ami à lui. Ça marchait pas.
Il faut trouver l'axe, quand même.
Et alors, l'axe, c'est quoi? Vous le dirigiez?
C'est une recherche, puis
comme
j'avais entendu,
tu sais que Buster Keaton, il a commencé comme ça, c'est-à-dire qu'il avait des parents qui étaient dans le music hall, et on disait que le gag avec lui, quand il était petit, c'était qu'on le jetait sur les murs.
Ah oui.
Oui, tu vois, ça devait être une expérience aussi névrotique bizarre, ça.
Ah oui. C'est
mais vous n'avez pas été jeté sur les murs, rassurez-nous.
Non, mais mine de rien, quand même, quand j'avais 5 ans et que je rentrais dans une pièce avec mon père qui me tenait la main, et on rentrait dans une pièce où il y avait ma mère avec un autre homme dans le lit, c'était quand même jeté quand même contre le mur. En plus, l'acteur, il était pas non plus très malin. Il était pas super habile avec moi. Il maintenait le doute. Je lui mettais en caleçon quand même. Il me disait, oui, non. Mais qui sait, si je vais être en caleçon dans le lit. Je lui dis, écoute, dis-moi la vérité parce que c'est quand même désagréable. si, t'es en caleçon.
Et qui vous disait que c'était du cinéma et pas pour de vrai?
Je sais pas, comme c'est de l'hypnose à 5 ans, au début, je devais comprendre que c'était du cinéma. Puis après, pendant la scène où jouait ma mère qui jouait, je devais plus comprendre grand chose. Mais au final, maintenant, je l'aime vachement ce film. Les Baisers de Secours, je l'aime vraiment bien comme film.
Et à quel moment, Louis Garel, avez-vous l'impression que vous jouiez volontairement, en endossant le rôle que vous donnez votre père dans un de ses films?
Après, ça dépend, parce que petit à petit, comme acteur, on comprend petit à petit, pas après pas, qu'il faut soi-même raconter quelque chose dans le film comme acteur, parce qu'il y a, il y a le discours de la mise en scène, et puis après l'acteur il doit lui aussi en parallèle raconter quelque chose. Donc ça c'est indépendamment du film de Philippe ou un autre film d'un autre metteur en scène. Donc ça c'est un apprentissage constant.
Lorsqu'il faudra quitter ce monde, fais que ce soit en ta présence, fais qu'en mes ultimes secondes, je te regarde avec confiance, tendre animal au sein troublant, que je tiens au creux de mes paumes, je ferme les yeux, ton corps blanc est la limite du royaume. Essentielle, la vie qui s'en va en riant, remplir des entités nouvelles. La vie n'a pas duré longtemps, la fin de journée est si belle.
Je vous propose d'écouter votre père, Philippe Garrel, et votre grand-père, à savoir Maurice Garrel. Il était dans une émission, c'était le 3 mars 2010, et il va parler de l'engagement.
La France, c'était affreux, c'était misérable. Les gens ne pensaient qu'à manger. Et quand au théâtre, on prononçait le mot « café », les gens disaient tous « du vrai café », on entendait chuchoter dans la salle, du vrai café ou du faux café. On dirait que c'est revenu, les pétainistes. Ils sont revenus, maintenant, avec Sarkozy. Non ? Il me semble. Il vous semble pas ? Vous faites votre politique ? Jamais ? Et moi, j'en ai fait, contre la guerre d'Algérie, pour aider le FLN, pas avec Sartre, mais avec Jean-Marie Serrault. Tout le temps.
Vous étiez porteur de valises ?
Non, j'ai pas porté les valises, mais on manifestait dans la rue, en courant, très vite, des petits groupes. On manifestait pour le FLN, contre la France. Contre la France. J'ai toujours été contre la France. Au Maroc, il y avait une hiérarchie, c'était épouvantable. Il y avait une hiérarchie, il y avait tout en haut les Français nés au Maroc, un peu en dessous, il y avait les Français qui n'étaient pas nés au Maroc. Mais moi, j'étais arrivé à 4 ans, mais je n'étais pas considéré comme un qui était né au Maroc. Vous voyez, j'étais un Francaoui. Pour mes cousins qui étaient nés là-bas, J'étais un francaoui, tout le temps. Comme quoi, le monde a besoin de hiérarchie. Et alors ensuite, en dessous, il y avait les Espagnols, les Italiens. Il n'y avait pas beaucoup d'Italiens, mais il y avait des Espagnols. Les Portugais, il n'y en avait pas beaucoup non plus, mais il y avait des Espagnols. Les Espagnols, et puis en dessous, il y avait les Arabes. Après, il y avait les Juifs. Alors, il y avait les Juifs assimilés, ceux qui travaillaient à la poste, à la banque, et tout, qui mettaient une cravate, mais qui sortaient du mellah.
Nous venons d'entendre la voix de votre père, Philippe Garrel, de votre grand-père, Louis Garrel. C'était un homme exceptionnel à bien des égards. Il y a des pans entiers de sa vie qui ne sont pas connus du public, en dehors de ses talents artistiques. C'est son engagement, son courage, et notamment durant la Seconde Guerre mondiale. Et je crois savoir, Philippe Garrel, qu'à un moment, vous aviez voulu restituer une période de la vie de votre propre père. Et puis finalement, il n'est pas encore fait ce film, il se fera peut-être un jour.
Non, mais il faut des moyens pour le faire, et c'est très compliqué, vu la crise économique européenne, de faire tous les projets qu'on voudrait réaliser. Et oui, par rapport au fait que... Il était très politique, mon père. Il était très, très politique, tout le temps. Et ça, aussi, il m'a donné ça, j'aime beaucoup le cinéma politique, j'aime beaucoup L'Insoumis d'Alain Cavalier, que j'ai revu il n'y a pas longtemps, des choses comme ça. Je trouve que, si Louis a raison sur le fait que le cinéma peut faire un peu peur, mais sans doute de la première peur qu'on a quand on est enfant, qu'on dit qu'on ne peut pas montrer Charlot aux tout petits enfants. Tout le monde a vu des dessins animés avant de voir Charlot, parce que sinon ça effraie la représentation de la personne humaine. Dans le même genre, le cinéma peut faire peur, mais par contre, il a une vertu, c'est qu'il est très intéressant quand il est politique. Et il est très rarement politique, parce que comme il est industriel, il est en gros produit par soit le grand capital, soit les pays totalitaires, et c'est-à-dire il est extrêmement surveillé, et donc il y a très peu de films politiques très intéressants, mais c'est très intéressant. Le fait que le cinéma puisse être politique et que ça soit une trace, en plus, indélébile par rapport à différents attitudes politiques ou d'engagement. Oui, oui, ça, c'est une chose que mon père, il était très supérieur à moi dans ce domaine-là, c'est-à-dire, peut-être je suis arrivé à presque l'égaler dans le domaine de l'art, mais dans le domaine du courage politique, c'est quelqu'un qui était exceptionnel, effectivement.
Faites-vous du cinéma politique, Louis Garrel, aujourd'hui ?
Ça, c'est le mot, là, j'ai du mal avec ce mot, moi.
Le premier de vos films que vous avez signé en tant que réalisateur parlait de politique et du politique et des enjeux sociétaux quand même. Le second, on va le découvrir là très vite, on l'a pas encore vu.
Non, c'est-à-dire ça c'est pareil, quoi. C'est comme au théâtre, c'est-à-dire d'arriver à faire un peu scandale. C'est-à-dire ça, je suis plus intéressé par ça que tout d'un coup où un artiste en général arrive à dire une chose qui est un peu scandaleuse. Ça, je pourrais plus être intéressé par ça. Scandaleuse au sens, tiens, il l'a pensé. C'est une première pensée avant tout le monde. Comme on est tout le temps en train de naviguer dans la vie de tous les jours avec des pensées qui sont les mêmes, c'est ça qui est difficile. C'est que même quand on discute, mettons, parlons de politique avec des amis ou avec des gens, le nombre de lieux communs qui vont sortir et le nombre d'idées déjà entendues mille fois, qu'on est déjà terrassé par l'ennui. Et quand tout d'un coup, quelqu'un arrive à dire quelque chose qui, même à moi, me paraît scandaleuse, mais qui en fait va s'avérer être d'avant-garde ou être une nouvelle idée, ou ça m'intéresse. Je pourrais dire, en ce sens-là, je pourrais rejoindre Philippe quand il dit quand un film, tout d'un coup, est très bien fait là-dedans et qu'il est subversif comme ça, c'est-à-dire qu'il amène une nouvelle idée ou un nouveau projet ou une nouvelle, je sais pas, un nouvel imaginaire ou une... Ça m'intéresse. Mais sinon, le mot politique, en général, quand je vois politique, je m'ennuie tout de suite, je sais pas pourquoi.
Si je vous dis le mot de révolution, il vous évoque quoi ?
Bah, l'histoire de... Ça, c'était par l'éducation de Philippe, c'est où il y a la guerre, où il y a la révolution. Ces deux mouvements de foule qui apparaissent quoi qu'il arrive. Et ça vient, j'imagine, aussi de Marx, qui, dans sa critique, lui, de ce système qu'il appelle capitaliste, le capitalisme ne peut jamais échapper à la guerre, puisqu'il a besoin de renflouer les caisses par la vente d'armes. Donc la révolution, elle est une alternative.
Mais pour vous, dans votre imaginaire de jeune homme... Commençant à devenir un vrai adulte, là, hein, Louis.
C'est compliqué parce que moi, aujourd'hui, je suis en France, je pourrais dire, j'aurais du mal à dire, je suis fier d'être français, je pourrais dire, je suis assez content d'être européen. même vis-à-vis de copains qui sont pas forcément, qui habitent pas en France, en Italie, je vois ça les angoisse, l'idée de l'Europe. Donc aujourd'hui, si j'avais un, on pourrait dire un dessin, on peut dire que ça serait, comment est-ce qu'on continue à être content d'être européen? Ça, ça serait ma chose. Donc révolution, pour l'instant, ça me vient pas. Ça me paraît lointain.
C'est pas une vaille chose fantomatique que vous alléguez votre père?
Non, c'est pas une vieille chose fantomatique, mais ça me paraît en tout cas moins connecté à...
Vous l'avez pas vécu?
Non, jamais. Mais et... par contre, comme je suis un anxieux et que j'ai peur de la guerre en général, et que je sais que l'Europe tient ça, mine de rien, c'est-à-dire une forme de paix, alors peut-être pas dans tout le territoire mondial, mais dans le territoire dans lequel je vis, le grand territoire européen, ça serait ça qui m'intéresserait.
Philippe?
Non, mais la révolution, moi j'ai jamais milité ni quoi, mais simplement si elle arrive, j'ai rien contre.
Vous parlez que de cela.
J'ai rien contre, c'est tout. Non, j'ai rien contre, c'est tout. Il faut juste rester.
Révolution politique, révolution poétique, révolution de l'amour, du désir, de la sexualité.
Ah oui,
de
non, mais je parle de la révolution. Je parle pas de la révolution industrielle ou tout ça. Ça, c'est des. Ou de la révolution informatique et tout. C'est des. C'est des abus de langage. Non, sur le fait de. Même si vous me disiez la dernière fois, alors donc vous êtes un bourgeois maintenant que vous avez. Alors je vous ai dit oui, un bourgeois du peuple quand même. Eh ben ça veut dire ça. Ça veut dire si ça arrive, ben rien contre quoi. Avec une très grande frayeur que ça soit violent, parce que la seule révolution qu'on peut citer, c'est la révolution des œillets au Portugal qui a fait zéro mort quoi. En soi, le fait de sans travailler pour, de dire si par hasard ça arrive, rien contre, parce que comme Louis disait. Je crois que c'est dialectique. Si c'est pas ça qui arrive, au bout de certaines années, c'est la guerre qui arrive. Alors de se dire, c'est un moindre mal que de tenter de changer toutes les choses. Mais voilà, c'est tout, pas plus que ça. Et puis si j'étais content de faire...
Mais la guerre, elle rôde aux confins de l'Europe. Elle est là, pas très loin.
Ouais, et ben, ma génération, moi j'ai 70 ans, on a une chance extraordinaire. On est né à la fin de la Seconde Guerre mondiale, je pense en grande partie pour repeupler, parce que si j'ai compris, mon père, ce qu'il m'a dit avant de mourir, c'est qu'il avait tué autant de nazis qu'il avait fait d'enfants, on pourrait dire, presque, pour repeupler. C'est moi qui fais un dessin de tout ça, mais il y a des chances que notre génération, qui a vu en 20 ans, 68, on échappe à la guerre. Mais en même temps, par rapport à mes enfants, c'est une menace qui est réelle, constante. On a bien vu, parce que regardez-nous, par exemple, on aimait bien François Mitterrand, alors et tout, puis quand il a déclaré la guerre à l'Irak et tout, on était bien, lui tout seul, il a le droit de déclarer la guerre comme ça sur un coup de fil et tout. Ah bah oui, il a le droit, il est président de la République. Pfiou, on était quand même assez terrassés. Et donc, ça peut très bien arriver. Je pense que c'est ça le vrai malheur du monde, etc. et tout ça. Et j'ai compris un peu en lisant Simone de Beauvoir, qu'elle est là pendant la guerre, en train de, avec des rendez-vous en province, Sarthe, comme ça. Pourtant, elle est pas dans les plus malheureuses, mais elle est dans des gares de province, en train de chercher un petit hôtel pour crécher sous la pluie et tout. Et c'est la guerre qui en finit pas et tout. Et j'ai compris que c'était aussi simple que ça, que c'était une espèce d'enfer dans lequel on se promenait quotidiennement comme ça à la guerre. Et c'est une des choses qui n'est pas assez enseignée, l'horreur de la guerre. Le faire comprendre réellement qu'on n'a absolument pas intérêt à vivre une guerre.
Vous êtes père, Louis, vous enseignez, c'est... ces vertus de liberté et de paix à votre propre enfant.
C'est une combattante, donc c'est une guerrière, alors j'essaie de la calmer. On peut rien faire contre l'instinct de combat ou la rivalité ou des choses comme ça très pulsionnelles, antiques. Non mais pendant que je vous écoutais, parce qu'il y a une question par exemple qui est angoissante quand on dit, vous savez, la fin de l'histoire, là, ce qui était à un moment donné prophétisé. Mais si on réfléchit...
Par un historien, oui, qui s'est peut-être trompé.
Parce que si on réfléchit
Fukuyama.
Bien...
Fukuyama.
On est tellement, si on regardait, la logique, elle est pas du tout la qualité première du monde. Là, tout est très très illogique. Donc, on est quand même encore à des temps préhistoriques d'un monde qui serait complètement raisonné et raisonnable. Puisque le fait qu'il y ait de la bouffe détruite et puis d'autres qui en aient pas ou des choses comme ça, c'est encore le Moyen-Âge. C'est-à-dire, si on réfléchit dans 50 000 ans, et regarderont les gens en 2018, il y avait des gens qui, encore dans des pays africains qui n'avaient même pas bouffé, tandis que d'autres on la détruisaient, ça paraîtrait complètement fou. De la même manière qu'aujourd'hui, ça nous paraît fou qu'un homme soit condamné à mort en France, par exemple. On dit, putain, il y a des gens avant qui étaient condamnés à mort par le gouvernement, tout ça, c'était bizarre. Un jour apparaîtra qu'on vivait un temps en 2018 très moyenâgeux. Alors ça, c'est ce qui continue, par exemple, à donner la foi en ce qu'il y a dans Tchekhov, comme ça. Quand un jour, ça m'avait bouleversé quand j'avais 16 ans, il y a un type qui se met sur une table et qui dit « On a été tellement tristes, nous, dans notre famille, mais un jour, ils seront heureux, les gens, ils seront très heureux. » Et c'est à la fois une espèce de déclaration de mélancolique et à la fois c'est un appel au désir de vivre, parce que il faut bien quand même comprendre que là, le monde, il est dans un état très illogique, je trouve.
Qu'apprenez-vous de votre fils, Philippe Garrel ?
Oh, l'envie de vivre, parce que je crois vraiment, Louis, Esther, Elena, c'est, à part la femme avec qui je vis, c'est... Parce que sinon, j'ai plus que mon frère qui vit maintenant, Thierry, qui vit au Canada, qui a un an de moins que moi. Le premier point de ma famille est parti, et il reste plus que des films, alors bon, voilà, et puis... Ben non, c'est parce que j'avais quand même, comme j'ai avec lui, une histoire d'amour très forte de père à fils, j'avais ça avec mon père aussi, c'est-à-dire de quelque chose où, ce qu'on trouve d'intéressant...
Il est l'unique fils.
Oh, ben, les deux autres sont des filles, mais elles sont aussi... Esther, par exemple, que je découvre en ce moment, j'aime beaucoup comment elle est. Elle est quelqu'un de...
Quelqu'un de...
Ben, c'est-à-dire, ce qu'ils ont... Moi, je suis un goy. Alors, quand la
un
maman...
Un goy, ça veut dire un non-juif.
Ouais. Et quand la maman de Louis est tombée enceinte et que... Moi, je voulais pas d'enfant. Et j'ai pensé... Et qu'elle, comme elle était séfarade, j'ai pensé, ah, un enfant juif, c'est intéressant quand même. Aussi parce que la gauche était arrivée au pouvoir après des années et des années. Je pense qu'il faut que je fasse autre chose, quand même. Je préfère juste des films. J'ai déjà fait ça tout. Alors donc, il y avait le fait que la gauche était arrivée, qu'il fallait un peu changer sa vie. Et le fait que je pouvais avoir un enfant juif, j'ai pensé, ah, ça m'intéresse beaucoup. Et j'ai dit, oh, bah, d'accord, ok, pour un enfant. Et puis c'était parti. Puis après, j'ai trouvé ça extraordinaire, peut-être même plus extraordinaire que les gens qui projettent un jour d'avoir des enfants. Moi, c'était philosophique, c'était parce que justement, je trouve que la vie est très dure pour tout le monde, donc je pensais quand même à offrir, c'est aussi très égoïste de faire des enfants. Mais
justement, il y a des gens qui disent qu'ils sont tellement pessimistes qu'ils ne veulent pas avoir d'enfants et laisser de descendance. Vous, c'était le contraire.
La plupart de mes amis ont fait ça.
Ah là là, ça c'est ça que j'ai vu dans Les Fraises Sauvages qui m'a angoissé. Il y a le discours, tu sais, quand j'écoutais Maurice, je me disais, il pourrait ressembler au docteur, tu sais, des Fraises Sauvages, là. Il est sévère, même Maurice, quand on l'entend.
C'est Sjöström qui joue ça.
Ouais, c'est Victor Sjöström. Et à un moment donné, il y a le fils de Sjöström qui fait une déclaration à sa femme et qui lui dit, je veux pas d'enfant, tout ça, c'est déjà pour moi d'être, c'est déjà une difficulté énorme. Et elle est enceinte, alors. Ouais. Et il lui dit qu'il n'aura jamais d'enfant. Et le discours qui est à la fois définitif comme ça sur l'existence, le fait qu'il veut pas d'enfant, ah, ça m'a foutu une angoisse.
Ah ouais.
Ah, je sais pas.
Ouais, heureusement que les femmes ont l'instinct, ouais.
Vous vous voyez souvent ?
Avec Philippe, ouais, tout le temps. Oui, on s'appelle, par exemple, et tout ça, c'est marrant. Ouais.
Vous avez besoin l'un de l'autre ?
Ouais, je fais la tournée des enfants, je joins les trois, un, deux, trois, ça, et puis ils vont bien, donc ça va, ma journée est bien.
Mais c'est intéressant, parce que maintenant, je suis devenu, par exemple, ami avec Vincent Cassel, alors maintenant, on discute de ça, de comment lui est devenu acteur avec son père, qui était acteur, qu'est-ce qu'il a fait contre... le genre de film qu'il a fait qui peut-être plairait pas à son père, ou finalement après les points de rencontre qu'il a avec son père et tout ça, les discussions sur comment son père l'a moins compris ce qu'il faisait, puis après finalement il a recompris. C'est intéressant.
Vous allez voir tous les films de votre père, Louis ?
Quasiment tous vus, oui.
Ah, pas, il en manque quelques-uns alors.
Il en manque de la première époque.
En tout cas, Philippe, il va voir tous vos films ?
Pas tous, non, il y a certains.
Non, c'est-à-dire aussi, c'est une règle dans la famille. Si on veut, si on a fait une chose dont on n'est pas très fier, on a le droit de dire je préfère que la famille n'aille pas voir ça, et on respecte ça. Et on n'y va pas. Donc il y a des films que j'ai pas vus, le premier Honoré, des choses comme ça, où il me disait je préfère que tu le vois pas. Et pas les chansons d'amour, qui est magnifique, mais je trouve que c'est agréable de pouvoir quelque part dire je préfère que vous voyez pas ça. Et donc c'est aussi une règle qu'on a pour que ça soit vivable.
Alors parlons de l'avenir. Vous, Louis, c'est le film est terminé.
Oui.
Il s'appelle L'homme fidèle.
Mmh.
Vous reprenez des choses que vous aviez déjà abordées dans votre premier film, mais vous empruntez des thématiques qui peuvent apparaître aussi communes à l'univers de votre père.
Comme de toute façon, il s'agit toujours de, c'est toujours un homme, une femme, et ça discute. Donc en gros, c'est ça. Donc on pourrait dire ça, c'est ce qu'il y a de commun avec, on pourrait dire l'univers de Philippe. Mais après, non, parce que je l'ai écrit avec. Avec Jean-Claude Carrière, avec qui je suis devenu ami. Et comme il a 80, je ne sais plus combien d'ailleurs, maintenant je le traite comme une femme, je dis plus son âge. Alors, et comme il a, et que moi j'ai 35 ans, on s'est réunis et on a fait un espèce de, je sais pas, la moyenne d'âge du scénario, elle doit être un peu bizarre, mais il y a Donc c'est comme un, on pourrait dire c'est comme une comédie quand même. C'est, il me disait souvent, ça me rappelle le travail que je faisais avec Pierre Etex. Alors ça, ça me plaisait beaucoup parce qu'il me disait, comme il est, on écrivait ensemble, puis après je lui jouais les scènes. Alors on a essayé de faire une chose, on a essayé de faire une comédie légère, lui et moi.
Comment tu vas? Tu avais quelqu'un en ce moment?
En ce moment non. Enfin, tu vois, rien de sérieux.
Bonjour, voilà.
Bonjour.
Bonjour. Merci beaucoup.
Merci.
Qu'est-ce que c'est le plat du jour?
Le bœuf aux carottes, sauce au wasabi.
Oh, non, ça, ça va être un peu trop lourd pour moi.
Vous voulez essayer l'entrecôte au jasmin?
Ah bah oui, pourquoi pas. Non, non. Bon, je sais pas choisir. Tu veux bien choisir pour moi, s'il te plaît?
D'accord.
Pendant tout le repas, nous avons parlé de choses et d'autres. De Paul, bien sûr, pour ne dire de lui que du bien. Et de nous aussi, un peu.
Mais alors maintenant, ton travail, c'est quoi?
Je suis conseillère en communication aux affaires étrangères.
Ah ouais? Bah, c'était ton rêve?
Oui.
Tu voyages beaucoup?
Non, pas en ce moment.
Pendant tout le repas, je brûlais de dire à Marianne, est-ce que tu pensais à moi quelquefois? Et aussi, est-ce que par hasard tu voudrais qu'on essaie de revivre ensemble? Mais je me disais que c'était peut-être un peu tôt.
Et vous, Philippe, alors vous êtes en préparation pour l'année prochaine?
Ouais, je vais le tourner au printemps, ouais, un autre film.
Alors expliquez-nous comment se prépare chacun de vos films.
Je répète, j'ai commencé à répéter en janvier, tous les samedis ouvrables, avec les comédiens, je joue une salle de répétition, et je répète, et je travaille, pas seulement le jeu des comédiens, aussi j'élimine des scènes, je change l'ordre des scènes, je fais des improvisations, je change le dialogue, je garde des choses de l'improvisation comme nouveau dialogue, etc. Donc je fabrique vraiment maintenant mon film en répétition. Et après, je le filme très vite. C'est une manière en pellicule et comme je tourne quasiment qu'une fois chaque scène ou très rarement une deuxième fois, et ça me permet de continuer à travailler en pellicule. Et il y a même des acteurs sur le précédent film là, l'Amant d'un jour, qui disaient c'est ce que j'ai préféré dans ton film, c'est les répétitions. Donc c'est très agréable de travailler sur la, c'est parce que je fais absolument pas ça vis-à-vis d'un public possible ou quoi, je fais ça en soi. Parce que j'aime faire ça comme ça, et ça me plaît ou ça me déplaît selon des critères qui sont complètement personnels. Et les répétitions, c'est vraiment du travail en soi, comme ça. Et j'aime beaucoup répéter. Et voilà. Et sinon, mes films, maintenant, ils marchent moyen, quoi. C'est-à-dire, ils sont plus des caprices démentiels, ils perdent pas d'argent. Mais c'est quand même toujours assez difficile de faire un film, quand même. Ça reste difficile parce qu'on est en France, donc c'est une industrie, c'est ce que disait Godard, c'est comme les feux d'artifice de cinéma français. C'est une dépense, c'est pas quelque chose qui est dépensé. Un feu d'artifice, ça rapporte rien. Et donc le cinéma français, contrairement au cinéma américain, c'est une dépense. Parce qu'on est complètement minoritaire dans le monde par rapport aux Américains, mais c'est pas pour ça qu'on fait pas des films qui sont, la nouvelle vague l'a prouvé, aussi intéressants que les grands films américains de l'acteur studio, hein. Le septième art, il est autant français qu'américain.
Vous allez continuer à travailler ensemble, tous les deux?
Oui, enfin, si ça, à mon avis, si ça se présente. Hein.
Oui.
Engager votre père?
Mais non, il déteste jouer.
Ah oui, j'ai horreur de jouer, oui. C'est aussi.
Ah, il supporte pas jouer.
Mais pour votre fils?
Ah non, il pourrait pas.
Ah bah non, il
faudrait. Si de dos flou, tu pourrais.
Oui. Non, c'est. non, j'aime pas être. Filmer, la radio ça me dérange pas, mais le fait qu'il y ait une caméra, c'est une chose que j'aime. Donc j'ai choisi ça aussi pour cette raison-là, que ça m'intéressait pas de jouer, et je suis venu par la peinture, comme Piala était venu par la peinture, je crois que Bresson était venu par la peinture aussi, tout ça. En fait, c'est des gens très supérieurs à moi, dans ce qu'ils ont déjà prouvé, mais c'est une manière de venir par la peinture, alors qu'il y en a d'autres qui sont des anciens acteurs ou des anciens romanciers. Mais par la peinture, ça veut dire qu'on, il y a toujours un. Si je faisais exactement les films que j'ai envie, je ferais des films en noir et blanc muets. Mais on peut pas se faire produire un film noir et blanc muet. Personne vous. Enfin, il y a eu l'Oscar sur un exemple, mais c'est une espèce de citation référentielle, mais pas. Donc c'est vraiment le travail avec une caméra et des comédiens qui m'intéresse beaucoup. Comment faire attraper la vie avec une caméra et tout ça, et des personnes humaines. Je trouve que ça, c'est une chose qui reste entière comme passion chez moi.
Ben merci à vous deux, vous nous donnez le goût de l'avenir.
Ah bon, c'est vrai, ça va? C'était pas sinistre? Moi, j'ai toujours peur que ce soit sinistre.
Mais pourquoi vous avez peur de ça?
Ah ben, depuis que j'ai 6 ans, moi, j'ai peur d'ennuyer. Ça, c'est mon truc. Mais ça, c'est Peter Brook. Un jour, il a écrit ce livre, Le diable, c'est l'ennui. Et ça, je me suis dit, ça, c'est vraiment un titre qui me correspond très bien.
Ben, au risque de vous déplaire, vous n'êtes pas encore très ennuyeux.
Ah, ça va.
Fire.